Bonjour à tous, mesdames et messieurs, je suis Craig McLeod, directeur exécutif de la Société internationale du SIDA. Ce matin, la conférence va être un petit peu différente. Nous voulons augmenter le dialogue, les discussions dans cette conférence. Et une des choses que nous n'avons pas encore faites, c'est d'avoir une session plénière interactive. Nous sommes très contents que M. Dr. Sanjay Gupta a accepté d'animer cette session. Sanjay, il est correspondant médical, il est à l'unité de CNN, il travaille depuis 2001. En plus de son travail pour CNN, Dr. Gupta est membre du personnel et de la faculté du département de neurochirurgie à la faculté de médecine à Atlanta, États-Unis, fait des interventions chirurgicales à le Memorial Hospital où il est chef de service en neurochirurgie. Avant de se joindre à CNN, il était un neurochirurgien à l'université de CNSC, la clinique Sam Murphy, et avant cela à l'université le centre médical de la faculté du Michigan. En 1997, il a été choisi comme fellow de la Maison Blanche, alors avec 15 fellows nommés, et a été conseiller spécial à la femme du président des États-Unis, Madame Hillary Clinton, en 2004. Il a participé à la conférence internationale sur le SIDA de Bangkok. Il a rapporté sur la pandémie à CNN, CNN International et Headline News. Veuillez souhaiter la bienvenue au Dr. Sanjay Gupta. Je suis très heureux d'être ici. J'ai participé à deux de ces conférences. Maintenant, est-ce que tout le monde peut m'entendre? C'est mieux? Oui. Donc, j'ai participé à deux de ces conférences et une des choses que nous voulons faire aujourd'hui est vous donner l'opportunité de participer à ce dialogue. C'est ce que nous allons faire au cours de l'heure à venir, le thème de ces conférences, et passons aux actes. Mais la deuxième chose importante est le prix de l'inaction. Qu'est-ce que ça coûte si nous n'offrons pas les services? Quel a été le coût jusqu'ici? Donc, cela va être la question que nous allons traiter aujourd'hui. Nous avons des experts. Comme Craig l'a mentionné, la présentation va être un peu plus courte pour avoir un dialogue. Je vais vous donner autant de temps que possible pour discuter. Donc, laissez-moi vous présenter maintenant les panélistes. Mark Haywood, d'Afrique du Sud. Il est président du projet juridique pour le SIDA en Afrique du Sud. Il est né au Nigeria, vit en Afrique du Sud, mais a un accent britannique. Nous lui demanderons pourquoi un peu plus tard. Sanjogina vient de Russie. Elle est née et a grandi à Saint-Pétersbourg. Elle est directrice d'un groupe de soutien depuis 2005. Elle a aussi créé le premier groupe d'activistes en Russie qui s'appelle Front AIDS, Front contre le SIDA. Monsieur Sacha, Monsieur McEnroe vient de Suisse. Elle est secrétaire générale WYCA. Elle gère de nombreuses femmes et filles. Elle a des programmes dans 73 pays. Elle va parler des questions de moralité par rapport aux questions de mortalité. Moralité et mortalité. Et Corinne McKay va parler de la jeunesse et de son avenir. Elle vit à Portland, en Jamaïque. C'est une activiste pour mobiliser les jeunes. Elle a formé la première unité de jeunes à l'âge de 15 ans. Et je voulais demander, elle a l'air si jeune. Bienvenue à Carol également. Nous allons... Chaque panéliste va faire un exposé, présenter un exposé. Et avec Mark Haywood comme premier orateur, conférencier. Bonjour, est-ce que tout le monde peut m'écouter, m'entendre. Bonjour à tous et à toutes. Il y a quelques jours, nous regardions le président Clinton et Bill Gates sur cette scène. J'ai rêvé, j'ai eu un rêve d'une meilleure image et de voir sur la scène une discussion similaire. Mais je voudrais la discussion du président Lula du Brésil, le président Mbeki de l'Afrique du Sud, Tony Blair, le premier ministre de la Grande-Bretagne. Lula dirait à Mbeki, il parlerait de l'expérience du Brésil par rapport au combat contre le VIH-Sida, et Tony Blair offrirait les ressources pour vraiment avoir un programme durable contre le sida au Brésil et pour que les pays en voie de développement puissent attaquer ce problème de façon efficace. Et je dis cela parce que je pense que un des éléments manquants de cette conférence a été la question du leadership politique. Sans leadership politique, il ne sera pas possible d'utiliser les découvertes scientifiques dont nous parlons et qui pourront sauver des millions de vies. Sauf à moins d'avoir du leadership politique et à moins et sans interroger sur le fait pourquoi il n'y a pas de leadership politique, la réponse à la pandémie ne sera jamais aussi efficace qu'elle le pourrait. Donc je voudrais parler, mon sujet de discussion ce matin est l'importance du leadership politique. Je veux vous montrer ce qui se passe en Afrique du Sud. Je veux parler aussi de la Chine, je veux parler des tâches, des devoirs par rapport à la reconnaissance du sida comme problème de droit de la personne. Il n'est pas suffisant de discuter simplement des droits de la personne, mais il y a des devoirs pratiques par rapport aux droits de la personne. Je veux parler de la responsabilité des gouvernements et de la responsabilité de la société. Mais je veux commencer en disant qu'en dépit de notre critique de la déclaration de l'engagement à New York il y a quelques mois, nous avons tous admis dans cette déclaration que la reconnaissance était que maintenant nous avons les moyens de renverser la pandémie et de sauver et d'éviter des millions de morts. Ma question est, votre question est, est-ce que nous allons utiliser ces moyens? Est-ce que nous allons tenir les chefs de file mondiaux responsables pour s'assurer que ces millions de décès sont en fait évités? Une bonne partie des premières 25 années de la pandémie, nous avons essayé à créer les moyens, mais nous ne voulons pas la science pour la science, nous voulons la science pour la santé publique, pour sauver des vies. Ce n'est pas une question qui devrait préoccuper uniquement les activistes. Chaque travailleur de la santé doit être un activiste, chaque scientifique doit être un activiste, parce que votre devoir ne s'arrête pas avec la découverte d'un antirétroviral ou d'un microbicide. Il faut que ces découvertes soient disponibles pour la population dans son ensemble. Laisse-moi vous parler un petit peu l'histoire de deux pays. L'Afrique du Sud, mon propre pays, 5,5 millions vivant avec l'infection, le VIH, la Chine, 650 000 personnes infectées, mais avec des prévisions absolument terribles, 10 millions d'infectés d'ici 5 ans. Et je veux parler un petit peu de ces deux pays brièvement parce que je pense qu'il démontre ce qui se passe exactement sans leadership politique et ce qui se passe sans leadership politique en Chine, par exemple. Une des choses qui m'a frappé, et Peter en a parlé hier, c'est notre méconnaissance de cette épidémie au fil des temps et comment nous avons vraiment très peu agi. En Afrique du Sud, en 1990, un chef de pile du Congrès national africain qui a été assassiné a dit que nous ne pouvons pas nous permettre l'épidémie du sida de ruiner la réalisation de nos rêves. En 91, les chercheurs parlaient d'épidémiologie, montraient comment l'Afrique du Sud avait ce système de travailleurs migrants qui créait un environnement dans lequel le VIH pouvait se disséminer dans les groupes à risque jusqu'à la population générale. Peter, c'est que nous avons les ressources, mais je dirais que si nous avions la volonté plus, de façon plus précoce, nous avons pu sauvegarder des centaines de milliers et voire même des millions de vies. Mais en Afrique du Sud, nous n'avons pas eu la volonté politique. En Afrique du Sud, nous battons contre le VIH. Nous ne savons pas si les antirétroviraux sont utiles ou non. Mais dans notre combat, et nous avons échoué à fournir le leadership nécessaire, de façon inexorable, cette épidémie grandit, et comme vous pouvez voir sur ces diapositives, vous voyez la prévalence du VIH chez les femmes enceintes de 30,2%. Mais ce qui est encore plus épouvantable, ce sont le nombre de décès. Ces diapositives est une statistique officielle produite par Statistiques Afrique du Sud. C'est basé sur le compte de décès annuels basé sur le certificat de décès. Cette diapositive montre que en 2004, 500 et quelques milliers mouraient, un demi-million mourait par an par rapport à 97. Et comme vous pouvez voir, cela montre la situation perverse que de mon pays, plus de gens meurent entre 20 et 30 ans alors que qu'entre 60 et 70 ans. Je vais faire des commentaires que je voudrais faire, sont vraiment difficiles à faire, mais je vais faire ce commentaire tout de même. Dans les quelques 2 minutes, on va m'accuser d'être infidèle à mon gouvernement et non patriotique, mais ce que je veux dire, c'est que dans notre combat, nous avons traité l'apartheid pas pour une question sud-africaine, mais comme pour une question pour la communauté mondiale. Le sida, ce n'est pas uniquement une question pour le gouvernement sud-africain, c'est un problème pour le monde entier. Et il y a un véritable déni politique, et le monde doit parler là-dessus. Et le monde ne s'exprime pas là-dessus. Il faut absolument frapper sur la table. Le président Clinton peut parler de l'Afrique du Sud, de la pandémie en Afrique du Sud. Je veux dire maintenant, aujourd'hui, que je suis persuadé que notre ministre de la Santé devrait abandonner son poste, se retirer, disparaître, démissionner. Je ne le dis pas ça parce que je suis pas déloyal, mais parce que je suis loyal aux patients. Je suis loyal envers les patients qui meurent maintenant dans les communautés pauvres de notre pays et qui n'ont pas accès aux services médicaux et aux médicaments. C'est une violation des droits de la personne et cela ne peut pas être toléré. Il faut arrêter cette situation et vous devez nous aider. Merci. Le silence équivaut à la mort. C'est ce que notre président a dit en février de cette année, lorsqu'il a appris les chiffres concernant la mortalité du VIH. C'est inacceptable, c'est tragique. Mes derniers commentaires concernent la Chine. UNAIDS parle d'une épidémie qui grandit très vite, la possibilité d'avoir 10 millions de personnes infectées d'ici 2010. La Chine est très similaire à l'Afrique du Sud. Nous connaissons les groupes à risque. L'épidémiologie, on a des prévisions. Nous avons des migrants internes et externes et nous avons un gouvernement qui, de façon similaire, a d'autres priorités que le sida. La question est... Est-ce qu'il y aura 9 millions de nouvelles infections au cours des 4 prochaines années? Est-ce que la communauté mondiale va permettre cela? Cela peut se produire sans que personne le remarque. 10 millions de personnes, ce serait juste une prévalence de moins de 1%. Ça peut se produire parce qu'avec une culture d'impunité dans la violation des droits de la personne, c'est possible parce que les statistiques nous disent, nous parlent de la mort et de la souffrance du sida. Il faut des efforts concertés pour la prévention et le traitement, et le dossier du gouvernement chinois soulève des inquiétudes. Il y a des scandales, il y a l'emprisonnement de millions de femmes qui sont des travailleurs du sexe, il y a un harcèlement de la société, des activistes de la société civile, des emprisonnements pour de gens qui signent des pétitions. En conclusion, presque en conclusion, je veux poser la question des droits de la personne. La tragédie des gens qui vivent avec le VIH est que la réponse politique est influencé par la géopolitique du sida. Lorsque Kofi Annan a visité notre pays en mars 2006, il a demandé au gouvernement de nombreuses choses, mais il ne l'a pas attaqué par rapport à ses responsabilités vis-à-vis du sida. Nous avons besoin de leadership avec des gens comme Kofi Annan. Ma presque dernière diapositive, ça parle du droit à l'accès aux services de santé. Comparaison de la mortalité en Afrique du Sud avec le graphique de la mortalité en Suède et aux États-Unis. On parle du 21e siècle. Voilà, ça, c'est inacceptable. C'est pour ça qu'en termes de droits de la personne, nous devons nous assurer que tout soit fait pour s'assurer que tout le monde ait accès au traitement. Je vais sauter mes deux dernières diapositives. Ma conclusion. Hey, nous avons les moyens, nous avons entendu cela dans cette conférence. Est-ce que nous allons utiliser ces moyens? Allons-nous dire la vérité? Allons-nous nous assurer que les cibles de traitement sont établies, surveillées de façon à ce qu'au cours des 2, 3, 4 années, des progrès notoires sont faits et que les leaderships politiques affrontent cette question? Merci. C'est une excellente entrée en matière. Beaucoup de questions aussi. Je tiens à vous rappeler que nous aurons une session de questions et réponses dans 20 minutes environ. Bien sûr, nous avons un grand groupe et ici c'est un peu intimidant, un petit peu. Veuillez garder ça à l'esprit. Sacha Van Guina. Veuillez souhaiter la bienvenue à Sacha. Hello, bonjour. Mon nom est Sacha. Je viens de Saint-Pétersbourg, de la Fédération russe. Je suis un activiste pour un mouvement contre le sida. Je vais parler en Russie. Les cas de VIH sont dus à la toxicomanie. Je suis devenu VIH positif il y a 7 ans. Je pensais que j'allais mourir très vite. J'ai découvert que des traitements étaient disponibles 3 ans plus tard, mais la plupart des séropositifs de mon pays ne savent pas qu'il y a des traitements disponibles. Les gens ne reçoivent pas de conseils, quoi que ce soit. Pendant de nombreuses années, les centres de traitement du sida collectent des statistiques et c'est tout. J'étais la seule personne que je connaissais comme séropositive. Durant les années récentes, de nombreux amis sont devenus séropositives. Un nombre grandissant de nouveaux cas sont parmi les femmes qui ne sont pas des toxicomanes. Il semble que la prévention échoue aussi dans ce groupe. Lorsque mes amis ont appris que des traitements existaient, nous voulons vivre, nous ne voulons pas mourir. Nous avons appris que des traitements existaient et nous commençons à travailler dans les hôpitaux en aidant les patients séropositifs et nous avons vu que bien sûr la réalité était très différente. Les gens mouraient parce qu'il n'y avait pas de traitement. Les médecins décidaient qui méritait de vivre et qui devait mourir. des travailleurs de la santé refusaient les traitements. Quelque chose devait changer. Nous avons commencé à faire des manifestations, à discuter et à montrer notre existence. Mais de nombreuses le gouvernement disait que nous ne méritions pas de traitement. Comme Peter l'a dit, le silence est égal à la mort. Mais nous ne sommes pas silencieux, mais rien n'a changé. Nous avons commencé le mouvement Front AIDS. Des personnes ont été emprisonnées, nous n'avions plus rien à perdre. Front AIDS ne sont pas uniquement des personnes séropositives. Nous nous appelons Front AIDS parce que c'est une guerre pour notre vie. Nous avons commencé près de 1000 personnes à l'époque. Était déjà mort sans traitement. Nous voulons forcer le gouvernement à admettre que nous existons, qu'il y a une épidémie et que nous avons le droit à des traitements. Après des années de protestations et des actions politiques, le gouvernement russe a augmenté les subventions pour le sida. Les hauts fonctionnaires, y compris le président, a reconnu le problème et a exprimé un engagement politique pour le traitement. Le gouvernement a admis que les patients avaient le droit de vivre, mais les antiretroviraux ne sont pas disponibles pour tout le monde. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Les problèmes avec l'approvisionnement, il y a eu des interruptions de traitement parce que les centres de traitement du sida n'ont plus de médicaments. Le système doit être surveillé pour éviter la corruption des gens. On dit que les toxicomanes ne méritent pas de traitement, mais le gouvernement russe doit aussi créer des financiers pour assurer la durabilité des fournitures médicales.
Les régions qui sont soutenues. Nous avons Fonds Global qui nous a donné le meilleur traitement et les modèles de prévention dans la Russie et une assistance technique qui sont tout à fait essentielles. Mais il y a encore de nombreux problèmes à surmonter. Grand nombre de patients ne savent pas que les traitements sont disponibles. Les UDI sont isolés. Même s'ils savent que le traitement existe, ils ont des craintes, car il existe encore des mythes. Ils savent comment éviter tous les établissements de l'État, les pharmacies où on ne trouve pas une seringue, mais il y aura toujours un flic. Les centres de réhabilitation du de l'État, le meilleur renvoi, c'est un renvoi directement à la police. Le manque de traitement efficace pour les narcomanes cause des problèmes en ce qui concerne le respect du traitement. Le méthadone et les programmes de remplacement de méthadone sont illégaux en Russie. Il n'y a presque aucun accès à une réhabilitation pour être sans drogue. Les seuls qui existent, ce sont des programmes religieux et des centres de réhabilitation du gouvernement. Mais pour rentrer dans ces centres de désintoxication, il faut être inscrit officiellement comme narcomane. Et là, les policiers, les employeurs peuvent discriminer contre vous. Les traitements et les programmes de substitution sont nécessaires pour les UDI. Comme Alex Bouda a dit cette semaine, le débat sur cette question est fini. La Russie doit légaliser ses traitements tout de suite pour pouvoir traiter le VIH. Jusqu'à ce moment-là, pour avoir une bonne fourniture de traitement et un programme de soutien et mettre fin à la stigmatisation avec les groupes vulnérables et les séropositifs, s'ils ne l'en font pas, tout serait qu'une promesse non gardée. L'accès au traitement en Russie est un système malade qui a besoin de traitement. Le système mondial ne fonctionne pas du tout. Les initiatives mondiales n'ont pas eu de succès en ce qui concerne les traitements et ne traitent que 25% des gens qui en ont besoin. La propriété intellectuelle fait en sorte que les RV sont trop chers pour les gens qui en ont besoin. L'accès au traitement est un problème qui doit être réglé mondialement. À l'échelle du monde, nous avons tous le même problème et je vois que lors de cette même conférence, à titre de militant, on ne peut pas parler que de nos propres pays. Il faut se réunir sur le plan international. Tout le monde dans cette salle connaît le prix de l'inaction, la mort. Tout dépend de nous. Merci. Du temps pour lui poser des questions, mais Simbi Kanyoro, présentez-vous le train, s'il vous plaît.
Thank you very much, Pastor.
Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Lorsqu'on a un sujet comme celui-ci, nous sommes toujours tentés à présenter une tonne de statistiques qui démontrent le coût. Et j'ai été tenté de le faire. Lorsqu'on m'a invité, j'ai commencé à recueillir des données des pays, surveiller les données pour voir quelles étaient les statistiques qui sont disponibles. Mais j'ai décidé que je ne voulais pas présenter les statistiques à cette séance, car je crois sincèrement qu'il n'y a personne dans cette salle qui ne comprenne pas les conséquences de l'inaction. En 2031, dans 25 ans donc, il n'y aura personne plus jeune que 50 ans qui pourra se rappeler d'un monde sans le sida. Chaque haut fonctionnaire du gouvernement, chaque personne religieuse, chaque grand-mère aura vécu dans cette ère de pandémie. Quelle sera l'histoire racontée? Nous sommes responsables pour façonner cette histoire. Notre inaction façonnera l'avenir et déterminera l'avenir. Soit on façonne cet avenir ou c'est l'avenir qui nous dira quoi faire. Si d'ici 2031, des millions de pays, personnes sont encore affectées par le VIH, ça ne serait pas parce que nous n'avons pas agi ou parce que nous n'avons pas compris les conséquences de notre inaction. Ça aurait été parce que nous avons omis d'appliquer les connaissances que nous avons aujourd'hui, les connaissances acquises au cours de ces 25 années. Nous avons passé déjà 25 ans avec la pandémie. Nous sommes plus intelligents, nous savons mieux la gérer et on est mieux éduqués, on comprend mieux le comportement du virus. Et nous sommes plus compétents en ce qui concerne la prévention. Et on apprécie le rôle du leadership à tous les niveaux, de tous les coins du monde. Et ceci fait toute la différence. Et pourtant, je crois sincèrement qu'il y a beaucoup de facteurs qui nous échappent toujours et qu'on néglige. Je crois qu'un des domaines critiques qui devrait attirer notre attention, c'est celui d'examiner quelles sont nos valeurs, quels sont nos jugements, quelle éthique appliquer. On peut parler de la mortalité versus la moralité. Le nombre de vies perdues ne peut pas être négligé. Et la statistique que nous avons donne un cliché tragique du passé et démontre un avenir très effrayant. Mais la statistique ne dit pas grand-chose sur le contexte plus large de l'épidémie, qui est très complexe et qui a beaucoup d'interconnexions avec beaucoup de sujets qui nous intéressent. Nos croyances religieuses, à titre d'exemple, la façon dont nous gérons l'économie, la façon que nous parlons des disparités entre les sexes, etc., et nos interprétations. Les impératifs d'une société éthique et humaine exigent qu'on s'attaque au sida avec un esprit ouvert à des nouvelles normes et de nouvelles valeurs. La position éthique de quelqu'un dépend de la philosophie de quelqu'un, de leurs valeurs essentielles. Nous savons que les valeurs, on les acquiert dans des moments qui nous définissent. Et ma question, ces moments importants d'éthique et de moralité par opposition à la mortalité, Oui, des fois, ça peut nous aider, mais le sida a changé notre façon de penser, nos valeurs, et on doit répondre à cette question. Est-ce que la moralité peut surmonter la mortalité? Est-ce qu'on peut laisser les gens mourir parce que ces gens-là ne rencontrent pas nos normes morales? Est-ce qu'on peut les laisser mourir parce qu'ils sont pauvres et ne sont pas des gens productifs pour la société? Quel niveau de profit est éthique? Est-ce que investir dans une guerre, est-ce que ça vaut mieux, est-ce que c'est plus éthique que d'investir dans la paix? Et les budgets dépensés sur l'équipement militaire lorsqu'il y a des millions qui meurent en pauvreté? Ces questions comportent beaucoup de signes de dollars et exigent des réponses, des réactions des religieux, des gouvernements, des entreprises, des individus, et soulèvent encore d'autres questions, des questions d'ordre éthique. Nos réponses, nos réactions vont façonner l'histoire de l'avenir. La deuxième préoccupation que j'ai, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les connaissances acquises afin de pouvoir éliminer cette maladie et voir que l'économie a ouvert toute une boîte de Pandore. Car si on n'a pas de puissance de pouvoir, on a la pauvreté et la mort. Mais il y a des changements sur ce plan-là. Personne n'aurait pu penser à une histoire où on aurait eu une rencontre mondiale à l'ONU à écouter les enfants, les travailleurs du sexe et les utilisateurs de drogue, etc., etc. On n'aurait jamais cru, mais on le fait aujourd'hui. Mais on nous demande d'en faire davantage. On doit pouvoir traduire l'histoire positive de ce que nous faisons et transposer ça dans tous les domaines qui ont besoin de leadership. Le dilemme moral ici, c'est comment évaluer chacune des personnes qui offre un leadership, parce que notre histoire de leadership, on parle maintenant uniquement de leadership politique. Je sais qu'en travaillant avec des femmes, lorsque les femmes n'offrent pas le leadership dans un village, c'est pas le leadership politique qui va compter. Je demande que lorsqu'on parle de leadership, on peut parler de leadership à tous les niveaux. Leadership dans nos hôpitaux, dans nos foyers, dans les centres de jeunesse et à tous les niveaux. Il faut pouvoir offrir les ressources nécessaires pour qu'on puisse le faire. Et il va falloir étudier les mécanismes pour rendre ce changement possible. Et enfin, j'espère qu'une des leçons retirées depuis quelques années, c'est qu'il va falloir, il ne faut plus créer de frontières ou de limites. On ne peut pas avoir de recherche en isolement. On doit quitter le fonctionnalisme et cette idée de nous et eux. Et quand on est toujours là en train de montrer quelqu'un du doigt, on doit s'attendre à beaucoup de choses du gouvernement. Mais il faut en demander davantage. Les individus, les secteurs privés se joignent à la table. La taille de la table a changé, les bonnes manières aussi. Il va falloir travailler ensemble avec des coéquipiers, avec des partenaires des autres pays. Et le prix de l'inaction, je crois, c'est un échec moral profond qui va avoir un impact sur nos accomplissements sur les prochains siècles. On ne peut pas payer ce prix-là. Les 25 prochaines années, on doit aller de l'avant. Il faut avoir le courage et la ténacité de le faire. La prochaine conférencière n'a que 21 ans. Elle vient de la Jamaïque. Elle a commencé un groupe de jeunes à 15 ans. On va parler de la jeunesse et l'avenir. Mesdames et messieurs, Carol McKay. Encore une fois, j'aimerais souhaiter un bon matin à tout le monde, mes panélistes, le public et ceux que je représente ce matin. les jeunes. Quand je pense à mes défis, mes échecs, mes réussites depuis 6 ans, depuis 6 ans que je travaille comme jeune et avec les jeunes, je sais qu'il reste encore beaucoup de choses à dire et à faire. Par contre, je profite de cette occasion pour m'attaquer à ces sujets qui sont les plus importants. À l'âge de 9 ans, ma mère m'a dit que mon père était séropositif. Comme la plupart des autres jeunes que je connais, à mon âge et à cet âge-là, je ne savais pas exactement de quoi elle parlait. Ce qui me frappait, par contre, c'est que mon père allait mourir. Mon père ne nous a pas quittés aussi vite que ça. Mais ayant vécu tout ce processus, c'est comme si on me tuait et qu'on me tuait et qu'on me tuait. J'ai vu mon enfance, mon estime de soi, mon innocence et mon père. J'ai vu tout ça disparaître. Et la pire des choses, c'est que je sentais que j'étais impuissante. Le jour que je craignais finalement est arrivé, mon père est mort. Mais j'ai eu la chance, même si j'ai perdu mon père au sida, j'avais du soutien, de l'appui, des gens qui savaient que j'avais besoin d'aide, que ce soit un coup de téléphone, que ce soit des ressources financières ou autres, un mot d'encouragement, qui m'a poussé à prendre un rôle et par la suite m'a amené à mobiliser les jeunes dans ma propre ville de Portland, en Jamaïque. Et il y avait des jeunes et un bon partenariat avec les adultes. On a établi un partenariat où les jeunes étaient inclus dans tout le processus de prise de décision, où les gens nous écoutaient lorsqu'on avait des préoccupations et où les jeunes étaient inclus. Là où se trouvaient les adultes, nous étions là aussi. On était là à contribuer. Et grâce à ceci, on a pu élaborer et mettre en programme des programmes pour les jeunes, pour s'attaquer aux enjeux qui affectaient les jeunes. Et en même temps, nous donner un espace là où les jeunes pourraient s'impliquer dans des activités positives. Mais pour une ville qui va en direction nord-sud, avec des jeunes aussi, c'est un pays où il y a beaucoup de jeunes travaillent et vivent en milieu rural, il y a des gens éduqués et non, où on retrouve une population hétérosexuelle et homosexuelle, des pauvres et des riches. Un centre pour le jeune avec très peu de ressources, à lui seul, ne peut pas rencontrer les exigences de tout le monde. Et non, d'après UNICEF, près de 12 millions de jeunes entre les âges de 15 et 24 ans et 3 millions d'enfants vivent avec le VIH-SIDA. La majorité des nouvelles infections se retrouvent parmi une population de jeunes. 6 000 jeunes et près de 2 000 enfants sont infectés chaque jour. Malgré l'information que nous avons sur le VIH-SIDA qui a été diffusée, les nouvelles infections parmi les jeunes continuent à augmenter et seulement une petite fraction de nos jeunes qui sont affectés ont accès au traitement ou ont des connaissances et la liste continue. Pour un monde qui a maintenant vécu 20 ans avec l'épidémie et même dans ma petite ville de Portland en Jamaïque, les jeunes dont les parents sont affectés, les enfants sont victimes de discrimination de la part des étudiants, des professeurs, des membres de la communauté et pire encore, leur propre famille. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Les mythes et les conceptions disant que l'éducation sexuelle devrait être tabou demeurent encore dans la tête des jeunes qui sont confrontés quotidiennement à faire un choix sexuel. Malgré vouloir améliorer les normes des centres de jeunesse pour améliorer le niveau de qualité offert aux jeunes, il y a encore beaucoup de stigmatisation et de discrimination pour des jeunes qui veulent avoir accès à des traitements ou avoir accès à des condoms ou même de la formation. Nous savons que le visage du sida, du VIH, est un visage de jeunes. On voit dans la statistique. Afin d'avoir un avenir, il faut mobiliser, protéger nos jeunes. Il faut participer de façon active à tous les paliers. Le sida, VIH, affecte le monde entier, mais ceux qui souffrent le plus, ce sont nos jeunes. Alors, nul besoin de convaincre qui que ce soit que les bons mécanismes devaient être en place pour combattre cette épidémie et le faire rapidement. J'ai demandé aux jeunes dans ma ville la nature de ces mêmes mécanismes. Ce matin, je représente la voix de ceux qui ne peuvent pas venir ici devant vous et prendre la parole afin de sécuriser notre avenir et garantir notre avenir. On a besoin d'une éducation sexuelle de qualité avec une plus grande diffusion de messages. Offrir des programmes d'éducation sexuelle dans les églises, dans les écoles, dans les centres de jeunesse et les autres points de réunion, de rassemblement des jeunes. C'est essentiel. Ceci comprend une bonne information sur la prophylaxie, l'estime de soi, les compétences de vie. Nous savons que le VIH-SIDA et l'information reliée à ceci ne se fait pas en isolement. La liberté de pouvoir choisir et d'avoir un contexte de sécurité pour pouvoir en parler. Mais les gens croient que ce genre de contexte ne fait que promouvoir une liberté sexuelle plus grande. Mais non, il faut avoir de meilleures compétences pour pouvoir négocier pour des condoms et des connaissances pour savoir comment on peut faire pour se protéger. Des services de santé qui visent les jeunes, qui offrent un traitement égal aux jeunes malgré leur sexualité. En dépit de leur sexualité, ça veut dire que des jeunes qui vivent en pauvreté, des jeunes homosexuels, hétérosexuels, sans abri, ceux qui sont sans abri, ceux qui ont un handicap devraient avoir les mêmes privilèges afin de pouvoir avoir une réduction dans les cas de sida de VIH parmi les jeunes. On devrait reconnaître que les jeunes de tous les secteurs de la société doivent être sur le même pied d'égalité. Une plateforme plus saline pour pouvoir confronter les défis de cette épidémie. Cette conférence offre une participation accrue aux jeunes comparée aux autres années. Alors je félicite les organisateurs. Mais ça devrait être une inclusion soutenue qui devrait couvrir tous les niveaux de participation des jeunes. Je ne le dirai pas à nos leaders et je ne le dis pas à ceux qui ont les ressources pour faire la différence, pour promouvoir l'intégration de ces mécanismes et on verra un déclin dans le nombre d'infections chez les jeunes. Ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je vais leur dire, c'est penser à ce qui va se passer si on n'inclut pas ces mécanismes, si on ne les intègre pas. C'est aussi simple que ça. Nous sommes jeunes. Nous sommes les premiers à être affectés. Et nous sommes capables aussi de faire toute une différence. On veut jouer notre rôle avec vous et grâce à vous et avec votre aide. Merci. Alors, Mademoiselle McKay, seulement 21 ans, présentation, un discours très passionné. Et je crois qu'on la verra beaucoup. On voudrait avoir une discussion très interactive. On a 4 micros dans la salle. Alors, pour débuter, Marc, vous avez demandé la démission du ministre de la Santé. Maintenant, avec toutes vos connaissances et votre travail avec le projet de droit, comment créer cette volonté politique? Je crois qu'une volonté politique est faisable lorsqu'on reconnaît au premier niveau que le sida est une menace au développement des pays en voie de développement. Et avec cette reconnaissance, il y a aussi la compréhension que le gouvernement a un devoir critique de coordonner les efforts de la société. On a parlé maintenant de leadership. C'est important d'avoir ça à tous les niveaux. Mais on peut avoir un leadership à tous les paliers. Mais si on ne retrouve pas un gouvernement au centre qui encourage ce leadership, qui trouve les ressources afin de donner une direction, c'est là qu'on a des problèmes. Et c'est ce qu'on a vu en Afrique du Sud. On peut dire très fièrement en Afrique du Sud qu'on a un très grand budget pour le VIH qui nous est donné par le gouvernement. Mais notre gouvernement est toujours en train de sous-estimer les décès dus au VIH, toujours en train de sous-estimer la science. Alors nous, on aimerait avoir des cibles solides. On aimerait surveiller et contrôler le progrès à tous les points, évaluer le progrès, améliorer le programme là où vous avez des faiblesses. Le leadership politique n'est pas une idée éphémère. Il faut que ce soit quelque chose qu'on peut mesurer de façon objective. Et ce sont nos attentes. Bon, on va parler de cibles. Tout à l'heure, j'ai du mal à voir ici, mais je vais vous demander de vous présenter au micro, donner votre nom et si vous êtes affilié à une organisation, Roger Biddles de UCLA. Je félicite le premier conférencier à critiquer les gouvernements qui ne font rien. Mais je crois également qu'on doit féliciter les gouvernements qui font quelque chose. Et donc, je voulais faire une petite mise au point. Le ministre de la Santé de la Chine a visité des hôpitaux pour les victimes de sida, les patients dans les foyers. La Chine a promulgué une loi voulant que chaque individu qui a besoin de traitement pour le VIH-Sida aura accès au traitement. Ceci inclut les travailleurs du sexe, les hommes ayant des relations avec les hommes et les UDI. La Chine a une politique officielle pour avoir des cliniques de remplacement de méthadone et des programmes pour des échanges de seringues. Et il y en a plus de ces deux cliniques. On en retrouve plus en Chine que dans toute l'Asie. La Chine a promulgué une loi anti-discrimination. Et enfin, on a offert une éducation gratuite pour tout enfant affecté par le VIH-Sida. La Chine était en retard, mais a enfin commencé. Je crois qu'on doit féliciter les pays qui ont pris des actions quand même assez dramatiques du haut vers le bas, comme vous l'avez dit. Merci. Alors, encore une fois, donnez-moi votre nom et votre organisation. J'aimerais qu'on ait un dialogue. Ce n'est pas vraiment des déclarations de la part du public, mais on a des panélistes ici, des experts. Marine Adams, du Amor, Clinique Amor au Brésil. J'ai une question. Pouvez-vous parler un tout petit peu de ce rôle de leader spirituel dans la promotion de la conscientisation, la prévention, la solidarité, réduire la stigmatisation et le rôle des leaders spirituels, même dans les soins? Bon, alors, qui prendra la question? On ne peut pas sous-estimer la valeur d'un leader spirituel. Je crois que chaque personne est une personne spirituelle à un certain niveau. Mais le leadership spirituel, c'est que cette personne-là a une autorité dans le sens que non seulement l'écoute des gens, ils sont présents avec les gens lorsque les gens en ont plus besoin. Et je crois que à l'heure actuelle, je peux dire que c'est un cas. Beaucoup de leaders spirituels sont impliqués malgré un début difficile. Et je demanderais que les leaders spirituels s'impliquent davantage. C'est ce que je demanderais. Bon, et pour ajouter à ceci, lorsque vous parlez de volonté politique, est-ce que vous pensez aussi aux leaders spirituels afin de façonner cette volonté politique? Eh bien, ce que je pense de la politique, d'une volonté politique, la Russie nous montre Avoir une volonté politique, ça ne règle pas tous les problèmes. Ce n'est qu'un début. C'est juste une façon d'atteindre l'objectif. Merci. Bon. Et Annabelle Cannabis, du Royaume-Uni. Chaque année, 500 000 d'enfants sont nés séropositifs. Et nous savons depuis 10 ans comment prévenir cette transmission verticale de mère en enfant. Pourquoi est-ce qu'on ne réclame pas une augmentation urgente de cette prévention verticale? Car c'est urgent. Pourquoi est-ce qu'on dépense tellement de temps avec des nouvelles méthodes de prévention, des microbicides qui n'existent même pas encore, en train de discuter des traitements pour les enfants, lorsqu'on pourrait faire, c'est de prévenir ces enfants qui... prévenir les infections chez les nouveau-nés. Merci. Bon, pour mettre ça en contexte, on a parlé beaucoup de microbicides cette semaine. Et est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut parler de microbicides? Et pensez-vous que ces nouvelles méthodes de prévention ont un effet néfaste sur les méthodes qui sont conventionnelles, mais efficaces? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait dire quelque chose? Mais je suis d'accord avec madame. Les microbicides sont très importantes pour une foule de raisons. Et la nature urgente d'avoir un microbicide, c'est très important. On ne peut pas le surévaluer. Mais je pense qu'on néglige parfois les outils de prévention qu'on a. Il y a des années, à Durban, notre capacité de pouvoir prévenir cette transmission verticale avec nevirapine, ça c'était une grande nouvelle. Mais aujourd'hui, au plan mondial, seulement 9% des mères et des parents ont accès à ces services, ou y vont. Alors encore une fois, c'est le leadership politique. Comment ça se fait qu'une intervention relativement simple, comment ça se fait qu'on ne la met pas en œuvre dans la plupart des pays? Parce que sinon, les conséquences sont tellement éperantes. Alors oui, garder ce qu'on a déjà et aussi pousser pour les autres choses dont nous avons besoin. Très bien dit. Je ne vois pas les autres micros. Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient poser des questions?
Alors, continuons. Votre nom, votre organisation. Je suis de l'Université de Toronto. C'est plus un commentaire qu'une question pour Simbi. J'ai bien aimé votre commentaire au sujet de la moralité, mais il faut faire attention de ne pas voir le langage de la moralité. Il ne faut pas que ça devienne une arme contre les communautés et comme un outil pour leur refuser de l'accès à la prévention et au service. La moralité, c'est une norme que nous devrions utiliser pour juger nos leaders et les tenir imputables. Et on devrait voir la moralité comme étant intégrée aux normes des droits de la personne. Et on devrait poser la question, c'est quoi la moralité de refuser l'accès aux condoms et aux seringues propres? Et quelle est la moralité d'avoir des leaders qui vont avoir des modes de vie guerriers et aisés? Si on par exemple, quelle est la moralité de l'absence de Stephen Harper à cette conférence? Bon, vous avez parlé beaucoup de moralité versus mortalité. Aussi simplement possible, est-ce que l'un nuit à l'autre? Pouvez-vous avoir une moralité dans le vrai sens du terme sans que ça augmente la mortalité ou changer notre point de vue sur la mortalité? Je crois que la question... Je posais aussi des questions semblables. Je crois sincèrement que vous ne pouvez pas avoir de monde sans valeurs. Il y aura toujours des valeurs. Mais le moment charnière de la décision de ces valeurs ou du choix des valeurs est important. Et mon argument ici est que nous devons voir ce qui se produit maintenant et définir les valeurs que nous avons par rapport à notre monde d'aujourd'hui, fondé sur les réalités, pas sur des vœux pieux, pas sur des vœux pieux du tout. Donc, il faut arrêter de juger, mais il faut réagir en tant qu'individu qui croit en l'humanité, en utilisant le cadre des droits de la personne, mais aussi en le transformant en un outil pour sauver des vies. C'est ça qui compte. Merci, Musembi. Monsieur, votre nom et votre organisation. Mon nom est Alan Whiteside et je viens de l'Université de KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. 25 ans après le début de l'épidémie et 20 ans après y avoir travaillé, je suis en colère, frustré rappelez-vous, ce n'est pas que l'Afrique du Sud qui n'a pas de leadership. L'Inde, le Swaziland sont des exemples. Au Zimbabwe, le président met les séropositifs itinérants. Dans l'OCDE, qui tient le G8 imputable pour les promesses qui n'ont pas été respectées? Qui est responsable des programmes qui jettent les gens dans la rue? Les prochaines années doivent fournir de la mobilisation. Et ma question au panel, qu'est-ce que ça prend pour prendre cet auditoire et faire de nous un auditoire plus actif pour rejoindre davantage de gens? On a besoin de mobilisation sociale. Merci. Carol McKay, j'aimerais vous poser la question. Vous avez parlé beaucoup des jeunes et l'avenir et de plusieurs façons. C'est ce que vous représentez. Lorsqu'on parle de la mobilisation sociale, on ne peut pas mettre de côté les jeunes. Alors, comment réagissez-vous à ce commentaire? C'est quoi la mobilisation sociale à vos yeux et comment est-ce qu'on peut y arriver? Eh bien, je crois que afin de permettre aux jeunes d'avoir l'impression qu'ils fassent partie de la solution, les adultes, ceux qui ont les ressources, doivent nous donner cette plateforme pour qu'on se sente partie prenante. Donc, il y a des décisions qui se prennent, mais les jeunes doivent sentir qu'ils font partie de la prise de décision. Et lorsqu'on va avoir l'impression de participer activement à ce qui se passe et pas seulement passivement en train de subir, à ce moment-là, les jeunes vont s'impliquer au niveau social. Ils vont être mobilisés et ils vont vouloir agir parce qu'on ne leur donne pas simplement les recommandations. Ils sont impliqués dans le processus décisionnel. Alors, il faut... La stratégie à utiliser, c'est d'impliquer les jeunes. Est-ce qu'une conférence comme celle-ci le fait pour vous? Lorsque vous participez à une conférence internationale sur le sida, quelle est la perception des jeunes sur les résultats de cette conférence? Pour la conférence de cette année, moi, j'ai l'impression que nous, en tant que jeunes, avons eu une plateforme pour traiter de nos préoccupations, pour parler de nos défis, pour informer du monde de ce que l'on fait et aussi pour permettre à tout le monde de savoir ce qui se passe chez les jeunes. Mais en même temps, il est très intéressant que nous ayons eu une si merveilleuse plateforme et de voir tout ce qui se passe. Mais après l'événement, les recommandations qu'on va avoir faites, est-ce qu'ils vont s'en tenir ici au centre des congrès? Ce qu'on a partagé, est-ce que ça va arrêter ici ou les adultes, en d'autres mots, vont-ils prendre nos recommandations au sérieux et vont-ils se poser la question comment inclure les jeunes? Et je mets les jeunes au défi aussi. Nos recommandations, la passion pour ce dont on parle, est-ce que ça arrête ici et va-t-on retourner à nos pays pour s'impliquer activement? Les adultes vont-ils laisser nos recommandations lettre morte ou vont-ils dire « vous êtes engagés et on va donner du suivi ». On veut que nos recommandations aient du suivi. Bon, mon nom est Stella Yowavu du Centre pour le droit à la santé du Nigeria. Lorsque McKay a parlé du leadership politique, comme tout le monde en a parlé, et l'importance des autres pays qui se regroupent et exercent de la pression pour appliquer les conventions de la droit de la personne, dans quelle mesure peut-on influencer les communautés légales et juridiques pour qu'elles jouent un rôle? Elle semble être très silencieuse et de plus en plus, on a dit que la stigmatisation et la discrimination nuisent au progrès contre le VIH-SIDA. Au Nigeria, depuis 5 à 6 ans, nous avons une infirmière qui a été congédiée et il était clairement écrit que son congédiement était parce qu'elle était séropositive. Le juge ne lui permettait même pas de venir en cours. Elle a eu besoin de pression du Canada et de l'Europe pour affirmer que les gens dans la chambre d'audience allaient être en sécurité. C'est le niveau d'ignorance au niveau de la cour. Donc, 6 ans plus tard, cette cause est encore sous appel et cette femme est à peine en vie. Combien de temps va prendre la justice? On a une autre cause contre le gouvernement d'un État où une femme qui était censée, qui était très malade, qui avait de la diarrhée, qui vomissait, a été amenée à l'hôpital et ils ont refusé de lui donner des soins parce qu'elle est séropositive. C'est en cours depuis 3 ans. Et à un certain moment, on veut utiliser des pseudonymes à cause de la stigmatisation. Les gens qui sont séropositifs ne peuvent même pas avoir accès à leurs droits. Et on a demandé l'utilisation de pseudonymes pour protéger sa vie privée, mais ça a été refusé. Alors, comment peut-on appliquer les droits de la personne lorsque la communauté judiciaire et juridique est si ignorante? Alors, comment peut-on se mobiliser à ce niveau? Vous savez, Marqué, lorsqu'elle pensait, je me disais que c'est ça le prix de l'inaction de plusieurs façons. On parle du système judiciaire ici et de ne pas pouvoir obtenir l'information sur le sida auprès de l'information qui prennent des décisions. Vous travaillez avec un projet anti-sida. Alors, qu'arrive-t-il? Alors, premièrement, comment convaincre les gens, leur fournir l'information et les inciter à agir sur l'information? Eh bien, ce que je vous dirais, c'est que le système judiciaire est un groupe qui a besoin d'éducation sur le VIH autant que tout autre groupe. Et dans certains pays, ils ont beaucoup de pouvoir. Parce que l'on parle, nous incitons les gens à utiliser la loi pour défendre leurs droits de la personne, utiliser les tribunaux pour protéger leurs droits. Et s'ils vont en cours et ils ont de la stigmatisation et de la discrimination dans ce milieu et qu'ils sont refoulés, eh bien, ces gens perdent foi dans le processus juridique et retournent dans leur propre stigmatisation et leur peur et leur incapacité à parler aux autres. Donc, je suis d'accord avec l'intervenante. Mais encore une fois, je vous dirais qu'il y a plusieurs aspects à travailler avec le système judiciaire. Laissez-moi vous donner un exemple. Et ça revient à la question d'engagement politique. Dans les derniers mois ou semaines, nous avons démarré une poursuite au nom des prisonniers en Afrique du Sud qui n'ont pas accès au traitement. Notre système judiciaire, le juge, dans ce cas-ci, a appuyé notre argument et a émis un jugement disant que les prisonniers devaient être traités. Mais le gouvernement a refusé de le respecter certains éléments du jugement. Et la semaine dernière, un de ces prisonniers est décédé. Et ça, c'était de l'outrage au tribunal, de l'outrage face au judiciaire. Donc, il y a des questions essentielles qui doivent être réglées. Marc, je veux le faire le plus simple possible, mais lorsqu'on parle du système judiciaire, il semble que ce serait un point de départ en termes d'avoir des résultats. 25 ans, comme un des intervenants précédents l'a demandé, comment se fait-il qu'il y a si peu d'informations auprès des décideurs? Eh bien, je pense que c'est ça le problème. Non, laissez-moi être encore plus direct. Est-ce que c'est un manque d'information ou peut-être ne veulent-ils pas être informés? C'est un peu des deux. Ce qui est troublant, c'est qu'à l'extérieur de conférences comme celle-ci, le niveau d'information sur le VIH demeure extrêmement faible. On est conscient qu'il y a du VIH, mais l'information est faible, y compris parmi les juges. Mais le problème est amplifié du fait qu'il n'y a pas de désir de savoir. Il y a certains groupes dans le pays qui ne veulent pas être au courant parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas affectés. Des gouvernements, des juges qui croient qu'ils ne sont pas affectés. Des hommes d'affaires qui pensent qu'ils ne sont pas affectés. Des chefs religieux aussi. Alors, c'est un défi pour nous tous et c'est le rôle de l'éducation et des militants communautaires aussi. Alors, on va respecter notre thème ici. Je vous en prie, donnez votre nom et votre organisation. Diane Riley, je suis avec le réseau de diminution des torts aux jeunes et j'ai un commentaire et une question. Le commentaire, c'est que compte tenu que dans plusieurs parties du monde maintenant, c'est l'utilisation des drogues injectables qui mène l'épidémie. En Afrique, énormément de cas sont reliés aux drogues injectables. Le fait que ce soit lié aux interdictions de drogue et à une politique menée par les États-Unis et les Nations Unies et nous devons cesser de l'ignorer à ces conférences. La question porte un autre point aussi. porte sur un autre point. Mon point, c'est que la majorité des gens qui utilisent des drogues sont des jeunes. La majorité qui deviennent infectés sont des jeunes. Plusieurs sont des enfants de la rue. Leurs voix ne sont pas entendues dans cette conférence ailleurs. J'aimerais que les panélistes fassent des commentaires et le besoin d'éducation sur la réduction des dangers auprès des jeunes. Merci. Merci. Je pense qu'on en a parlé un petit peu pour être juste, mais Carole, vous avez fait un très bon travail à ce niveau. Mais Sacha, laissez-moi vous poser la question. Lorsqu'on parle des jeunes en particulier, il semble qu'on ne peut pas avoir de conférence comme celle-ci sans entendre leur voix. On a entendu parler de Carole. Quelle est votre impression? Est-ce qu'on fait assez? Eh bien, je pense que ce n'est pas suffisant, bien sûr, et je pense que les gens, les toxicomanes doivent être impliqués aussi. Leurs voix aussi doivent être entendues plus fortement à des conférences comme celle-ci. Ils doivent s'impliquer davantage dans des mouvements de défense des droits. Et c'est comme ça. Ça, c'est mon expérience, en tout cas. Lorsque je défends le droit au traitement, lorsque je défends le droit à la vie. Et c'est mon expérience personnelle. Je sais que ça fonctionne et je sais comment ça fonctionne. Et je crois que, en fait, oui, le leadership politique et des choses comme ça sont importants, mais il faut que les gens s'aident eux-mêmes. Et je suis très déçu, encore une fois, lorsque, à répétition dans plusieurs pays, on entend des discussions de réduction des torts et des dangers, mais il est clair, et j'espère que ça a été clair pour tout le monde, que regardez les résultats. Est-ce que lorsque cette éducation est fournie, ça fonctionne vraiment? Et c'est l'expérience en Russie où tous les programmes étaient interdits et n'ont pas été également accessibles. Donc, la prévention parmi les jeunes a échoué et la stigmatisation et la discrimination ne fonctionnent pas. Vous savez, c'est pas une question de moralité ou non. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui va fonctionner? C'est ça dont il faut tenir compte, à mon avis. Sacha, vous avez parlé des gouvernements et je lis certaines des affiches ici aussi. On mérite tous de vivre. Leadership politique maintenant, les gouvernements sont imputables. C'est intéressant, Marc, comme je l'ai mentionné plus tôt. Moi, j'ai assisté à plusieurs de ces conférences. Est-ce que c'est le thème à Toronto? Il faut que les gouvernements soient imputables et c'est ce dont on parle ici en 2006. Eh bien, je crois que c'est plus que l'imputabilité gouvernementale. Il faut que les gouvernements fonctionnent ou travaillent sur le VIH-SIDA. Comme Peter Peirce a dit, on a plusieurs ressources. On sait comment éviter la transmission verticale. On sait comment maintenir les gens en vie avec des ARV. On a davantage de fonds que par le passé. Mais en bout de ligne, les gouvernements ont du pouvoir et les gouvernements ont une responsabilité de s'assurer que ces avancées soient mises en place. Donc oui, l'imputabilité, mais en même temps que l'imputabilité, il faut trouver une façon d'aller de l'avant. À New York, au mois de juin cette année, les gouvernements se sont mis d'accord dans la déclaration politique d'établir des cibles d'ici 2006 pour la prévention du VIH, le traitement du VIH et les soins pour les séropositifs. Il faut s'assurer que ces cibles soient effectivement établies et que ces cibles soient aussi ambitieuses que possible parce que ces cibles ont le potentiel de renverser l'épidémie du sida. Et on ne peut pas laisser quelque chose comme la réunion de l'ONU se réaliser et ensuite on change d'endroit, on vient à Toronto, on fait la fête et on retourne ailleurs. Derrière nous, comme un des conférenciers l'a dit, il y a 40 millions de gens sur cette planète qui sont séropositifs, qui ne vivent pas dans des hôtels de grand luxe, qui ne se promènent pas dans les rues de Toronto et ne s'assoient pas sur cette scène. Et notre devoir est auprès de ces gens-là. Et je dis aux gens ici, pour répondre à ce que Alan Whiteside a dit, il faut que la prochaine étape cette année, ce soit avoir le 1er décembre 2006, le jour international du sida. Les gouvernements doivent être imputables. Ils doivent livrer les cibles de prévention et de soins pour le sida. Merci. Moussindi, je suis d'accord Tout à fait, mais je crois que l'étape à suivre, c'est comment on va donner aux gens le pouvoir, comment leur donner le pouvoir de tenir les gouvernements imputables. Parce que c'est une chose de dire les gouvernements doivent être imputables, mais si les gens, les habitants de ces pays ne savent pas comment le faire, ça ne se fera pas. Et c'est la raison pour laquelle il faut reconnaître le leadership qui vient de l'intérieur et surtout le leadership qui vient des communautés. On a vu les changements possibles à travers le monde. C'est parce que les gens se sont levés debout et ont refusé. C'est ce qui fait tomber des gouvernements. Il faut rendre possible pour nous en tant que peuple de se lever debout et de dire non. Gouvernement, prenez votre rôle au sérieux. Merci. Je vous invite à donner votre nom et votre organisation. Bonjour tout le monde, mon nom est Sheila Ramachandra et je représente le Forum des jeunes de Toronto. D'abord, je veux remercier Carol McKay pour nous avoir présenté dans cette plénière et avoir illustré l'importance du leadership des jeunes dans la pandémie du sida. Maintenant, ma question, c'est pour Carol McKay. À votre avis, qu'est-ce qui manque dans la réaction des jeunes face à la pandémie du sida et quel vide devons-nous combler? Ou qu'est-ce qui manque? Mais comme mes collègues l'ont dit, les jeunes savent ce qu'ils veulent. Nous savons ce que nous voulons, nous connaissons nos défis, mais le problème, c'est qu'on n'a pas les compétences pour aller chercher ce que l'on veut de façon efficace. On n'a pas ces compétences. Et ce qu'on doit faire en tant que jeune, c'est de se réunir et essayer d'aller chercher ces compétences, ces habiletés. Lorsque vous parlez aux politiciens, comment le faire? Et lorsque vous avez terminé, vous allez avoir les recommandations que vous souhaitez. Comment parler lorsque vous rencontrez les chercheurs, peu importe, lorsque vous avez terminé qu'ils savent, OK, ces jeunes savent ce qu'ils veulent. Ils sont sérieux et ils n'arrêteront pas tant qu'on ne livrera pas la marchandise. Très bien dit. Oui, votre nom et votre organisation. Mon nom est, je viens de la Chine. J'ai une question pour le premier conférencier. Mike, merci beaucoup d'avoir parlé de la Chine et merci de vous préoccuper de la Chine et merci aussi pour vos efforts d'étudier la Chine. J'ai une question et une invitation aussi. La question, c'est pour la Chine a prédit 10 millions d'infections au VIH. D'où ça vient? Et à l'OMS SIDA, on n'a pas trouvé de ressources crédibles pour cette citation. Pourriez-vous nous fournir la source de cette information? J'ai aussi deux invitations à vous faire. Dans la prochaine session, qui va commencer à 10h45, dans la salle 11, je vais parler de comment la Chine va passer de la science à la politique au droit, d'un projet pilote à un projet réalisé. Et je donne une deuxième invitation. Je vous invite à visiter la Chine. Je pourrais vous permettre de rencontrer des officiels du gouvernement de haut niveau pour que vous leur parliez et je peux aussi organiser des rencontres avec les travailleurs du sexe dans notre programme de vulgarisation. Et je vous incite à parler aux utilisateurs de drogues injectables qui sont dans des programmes de soins. Je peux aussi organiser pour vous de parler avec des hommes qui ont du sexe, avec des hommes qui sont dans un programme de prévention. Et je peux aussi vous inviter à parler aux gens dans les programmes de traitement gratuit. Peu importe à qui vous parlez, on peut organiser ça pour vous. Merci. Eh bien, je pense que je dois éclaircir mes commentaires sur la Chine. Ce que je vous dis au sujet de la Chine, c'est que la vigilance et le soutien de la part de la communauté mondiale pour l'épidémie en Chine et pour les Chinois qui vivent avec le VIH-SIDA, c'est essentiel, surtout lorsqu'il y a des prévisions d'une explosion de l'épidémie en Chine. La statistique que j'ai mentionnée nous vient de l'OMS et de l'ONU-SIDA, et je peux vous montrer d'où ça vient. C'est aussi une projection, une prévision qui se retrouve dans la demande de la Chine auprès du Fonds mondial pour illustrer que l'épidémie peut effectivement éclore et se développer. Ce que j'aimerais dire, c'est que la Chine démontre le gouffre qui existe parfois entre la société civile et avec le gouvernement. Il n'est pas suffisant à ce moment-ci de l'épidémie pour que les chefs politiques reçoivent le mérite d'avoir visité des gens qui vivent avec le VIH. Nous savons dépasser ça. C'est quelque chose que l'on félicitait il y a 15 ou 20 ans. On veut plus que ça maintenant. En Chine, ma préoccupation, c'est que les militants sont toujours envoyés en prison. Il y a 3 semaines, une personne avec le VIH qui est allée à Beijing pour exiger de la compensation a été emprisonnée parce qu'elle avait essayé d'obtenir de la compensation. Ça, c'est une violation des droits de la personne et le gouvernement chinois doit s'engager à cesser cette pratique. Je suis préoccupé que si l'on parle de droits de la personne et de la vulnérabilité des femmes et des travailleurs du sexe à l'infection par le VIH, que la criminalisation des travailleurs du sexe en Chine place des dizaines ou centaines de milliers de femmes à risque d'être infectées. Donc, en tant que militant des droits de la personne, j'invite la Chine à décriminaliser le travail du sexe et pour rendre la prévention plus facile. Mais ne vous méprenez pas. Je me préoccupe de la Chine profondément. Et mes commentaires sont faits non pas pour attaquer le gouvernement chinois qui montre qu'il s'engage auprès de la lutte au VIH, mais pour demander leur soutien, mais un soutien qui est basé sur les droits de la personne que nous acceptons au niveau international. Maintenant, voici la meilleure partie de la session, là, qu'on peut avoir ce genre de dialogue. Et dans cet esprit, laissez-moi vous dire, parce que je pense que c'est très équitable, est-ce qu'il y a des gens du ministère de la Santé d'Afrique du Sud? Je vous invite au micro pour que l'on puisse continuer ce dialogue, si vous le voulez bien. Nous avons 2 micros là-bas et 1 là-bas. Il nous reste 15 minutes. Est-ce qu'il y en a du ministère de la Santé d'Afrique du Sud? Entre-temps, elle est là-bas. OK, les micros sont ouverts. Si vous voulez vous présenter au micro, je vous invite. Votre nom, votre organisation et votre question. Bonjour, je suis Jerry Cloke. Je suis l'ambassadrice jeunesse de Passage for Life d'Ontario. J'entends le message que l'éducation des jeunes est très importante. Moi, je suis une Canadienne de 13 ans qui ne connaît pas le VIH-SIDA à travers mon école. Je n'ai pas été informée à travers mon école. Comment pouvons-nous faire en sorte que ça se produise avant qu'il ne soit trop tard? Eh bien, vous savez, on a parlé beaucoup à cette conférence des choses qui se passent, mais des fois, on oublie les choses les plus fondamentales. Une jeune de 13 ans qui n'a pas d'informations. Ça, c'est surprenant et c'est choquant, en fait. Qu'est-ce que en dites-vous? Oui, effectivement, c'est très troublant que une jeune de 13 ans au secondaire n'ait pas d'information et ça illustre les conséquences de l'inaction. Ça illustre qu'on ne fait pas suffisamment, que le gouvernement ne fait pas suffisamment. Vous savez, ça illustre que le gouvernement ne fait pas suffisamment. Et je crois que ce que l'on doit faire en tant que jeune, vous savez ce à quoi vous allez avoir faire face. Et il faut parler à nos enseignants pour leur dire, écoutez-moi, voici ce que j'ai devant moi. Les étudiants admirent leurs enseignants. Ce sont des modèles pour plusieurs élèves. Et il faut leur dire, écoutez, j'ai besoin d'informations sur tel sujet. Et si vous n'obtenez pas l'information à l'école et vous dites, d'accord, je n'ai pas le résultat que je souhaite, nous pouvons prendre la responsabilité d'aller chercher cette information soi-même. Donc, on a besoin d'être motivé et autonome. quelques minutes encore. Est-ce qu'il y en a du bureau du ministre qui veut parler? Bonjour, je travaille à Doha, en Inde, et au Collège britannique, et j'aime l'idée que les ministres démissionnent et que certains gouvernements soient imputables. Il y aurait beaucoup de têtes qui rouleraient depuis 25 ans. Et si on revient à la question qu'on a répété, on sait que les programmes et de prévention fonctionnent, la décriminalisation fonctionne, l'accès universel c'est un droit, et donc l'inaction c'est peut-être un crime contre l'humanité, comme on l'a mentionné à l'arrière. Est-ce qu'on peut utiliser les tribunaux internationaux, les tribunaux, pour poursuivre les gouvernements, pour les tenir imputables? Et je me demande si les panélistes ont de l'expérience de cette stratégie étant utilisée ou utilisable. Deuxièmement, si on parle des États-Unis, la nation la plus puissante aux États-Unis qui est capable de faire la guerre partout à travers le monde, comme on l'a vu. Qu'est-ce que les panélistes pensent de cette idéologie néolibéraliste qui soit le moteur de leur agenda anti-VIH avec les lois anti-prostitution qui sont liées à l'aide internationale américaine et l'absence de politique de prévention? Et si on parle d'action politique, en pratique, ce que l'on peut faire afin d'aller de l'avant avec ça plutôt que conférence après conférence, dire que l'inaction coûte des vies. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pratiquement? Est-ce qu'on peut unir les groupes anti-SIDA et anti-mondialisation au niveau du libre-échange et de la mondialisation? Bon, beaucoup de questions dans une seule. Marc, voulez-vous parler de la première? Quel est le rôle des tribunaux et du système judiciaire? Et je n'ai pas bien compris. Bon, en termes, quelle imputabilité le système judiciaire a-t-il pour appliquer ce dont on a parlé ici? Eh bien, ça varie d'un pays à l'autre. Le rôle du judiciaire et son statut varient. En Afrique du Sud, nos droits de la personne sont protégés, basés sur la Constitution. Les gens ont droit à la santé et à la dignité dans notre Constitution. Et comme militants, on a utilisé le judiciaire avec des procès qui ont forcé le gouvernement à fournir des services de prévention de la transmission, et on l'a utilisé pour informer notre gouvernement, pour l'obliger à donner du traitement aux prisonniers qui sont séropositifs, même si le gouvernement a défié cette ordonnance de la Cour. Mais il y aura des pays comme le Canada où le judiciaire peut jouer un rôle, et d'autres pays comme le Zimbabwe ou d'autres pays où le système judiciaire est marginalisé et où les tribunaux ne sont pas indépendants du gouvernement. Mais le principe universel, c'est que l'utilisation des droits de la personne sont un aspect essentiel de la prévention du VIH et de la réaction à cette épidémie. Et je sais qu'on n'a pas pu répondre à tous les éléments de la question, et je m'en excuse. Je m'excuse aussi du fait qu'il nous reste seulement quelques minutes encore. Et je vais inviter nos panélistes. Pouvez-vous demeurer après la présentation pour répondre aux questions des gens? Encore une dernière offre au bureau du ministre de la Santé d'Afrique du Sud. Voulez-vous qu'on ait un dialogue avant la clôture de cette session? Mais comme il ne reste que quelques minutes, je veux vous demander individuellement, pouvez-vous résumer pour moi en termes, lorsqu'on parle de cette conférence, c'est une salle énorme ici, c'est la première fois qu'on a eu une session comme celle-ci où on puisse avoir un dialogue. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on fait suffisamment? Est-ce que ça vaut la peine d'avoir ce genre de discussion? Qui veut commencer? Sacha, commencez donc.
Je peux commenter sur les questions précédentes. Une des choses que je veux dire, c'est que l'ensemble du système, la propriété intellectuelle soulève des questions. L'accès au traitement pour les maladies infectieuses, il faut établir, toutes les lois sur les brevets doivent être changées. Les activistes, nous voyons tous que les lois ne fonctionnent pas. Essayer de travailler dans chaque pays pour abaisser le prix des traitements. Il faut en fait changer l'ensemble du système. Pour moi, c'est utile, c'est ce type de discussion. Et merci pour votre question. Laissez-moi interrompre, est-ce que tu travailles avec le bureau du Premier ministre? J'aimerais vous entendre parler. Je suis directrice de programme au ministère de la Santé de l'Afrique du Sud. Je vais juste parler de cibles. Il y a des études de faites par des gens des États-Unis qui nous disent à le meilleur taux d'observance au traitement antirétroviral. Il y a peut-être plus de gens dans le programme de traitement au monde. J'aimerais demander à nos partenaires ne pas se coincer dans la cible de 5 ans. Parce que le gouvernement sud-africain prend en compte il donne à tout le monde. Et moi, comme gestionnaire de programme, j'ai un gros budget et je suis fier. Il n'y a eu aucune limite dans mon utilisation du budget. Mon plan d'activité n'a jamais été limité. Donc j'ai beaucoup de pouvoir pour mettre en place les politiques et les programmes. Si seulement nous pouvions applaudir les accomplissements qui ont été faits. Les gens à l'extérieur de l'Afrique du Sud pourraient voir que nous avons mis en place des programmes mieux que n'importe qui au monde. Merci. Désolé, on n'a plus de temps, mais est-ce que tu veux intervenir, Marc? Je devrais d'abord dire que de la part de la campagne du plan d'action de la Société Générale, il y a un désir d'espéré de travailler en collaboration avec le gouvernement sud-africain pour s'assurer qu'autant de personnes sont traitées et que nous soyons aussi efficaces que possible pour prévenir le VIH. Mais ce que je dois dire, c'est que les statistiques que je montre, ce ne sont pas des chiffres que j'ai imaginés. Je ne tiens pas à dérouter les opinions de cette statistique. Ça montre les nombres de gens qui meurent, le nombre d'infections au VIH. Ma réponse aux collègues est de dire, alors oui, bon, soyons d'accord sur des cibles, ok, mettons-nous d'accord pour réduire les nouvelles infections par 20 ou 30% d'ici 2008, mettons-nous d'accord sur 500 000 patients en traitement d'ici la fin de 2008, mettons-nous d'accord sur 80% de couverture pour éviter la prévention mère-enfant. Si nous mettions d'accord, nous aurons un soutien de 150% de soutien de la société civile sud-africaine et le soutien du monde entier, parce que vous allez renverser complètement l'épidémie. L'arrêter. Malheureusement, notre temps est écoulé. Veuillez applaudir tous nos panélistes, s'il vous plaît. Je vais leur demander de rester encore quelques minutes pour répondre à vos questions. J'espère que vous avez tous apprécié cette session.